Dans cette séquence, nous allons comprendre pourquoi la notion de taille optimale pour une ville ou pour des villes est en fait un faux problème. En effet, si nous nous reportons à la dynamique des villes dont nous parlons depuis que nous les avons définies comme des adaptateurs politiques, sociaux, économiques, culturels, dans une concurrence territoriale pour l'innovation et pour l'accumulation des richesses et des populations, nous savons que ce processus entraîne naturellement, pourrait-on dire, mécaniquement, ou en tout cas historiquement de façon observée, une hiérarchie des centres et des inégalités croissantes au cours du temps entre les centres. Et ce fonctionnement des villes par rivalité entre elles avait été aperçu depuis très longtemps par Giovanni Botero, qui travaillait à Rome pour les papes, qui a publié un ouvrage important sur la raison d'État et qui analysait ces faits de concurrence, non seulement entre les petites principautés italiennes de l'époque, mais même entre les villes installées dans les nouvelles colonies au Brésil à son époque. Pourquoi imaginer, comme beaucoup d'utopies ont pu le faire, une égalité entre les villes est en fait impossible? Eh bien, c'est que dans ce processus de croissance urbaine que nous avons décrit, les lois de ZIP ou la distribution log normale sont des attracteurs dynamiques vers lesquels tend inexorablement la distribution des tailles de ville alors que le processus de croissance a été énoncé, observé, formalisé. Donc on a très peu de chances d'observer spontanément une égalisation des tailles de ville. Et en outre, on peut imaginer qu'une taille de ville uniforme serait très instable, puisqu'il suffirait qu'un habitant déménage pour mettre en faux cette situation d'inégalité. En fait, si nous essayons de comprendre qu'est-ce qui fait l'avantage des grandes villes, nous avons des théories développées pour expliquer pourquoi il est plus avantageux de résider dans une grande ville ou d'y installer une entreprise. D'une part, parce que c'est dans les grandes villes qu'on observe la plus grande offre possible de fonctions urbaines. Les fonctions les plus rares sont localisées dans les plus grandes villes. C'est la théorie de Kristaller. Nous trouvons également les activités innovantes rassemblées dans ces plus grandes villes, avec un niveau plus important des qualifications, des populations et des métiers, et puis également une beaucoup plus grande diversité des fonctions qui sont proposées. C'est ainsi que, lorsque Fabien Paulus cartographie l'intensité de la diversité économique dans les aires métropolitaines américaines, les SMA, nous voyons que tous les grands cercles qui correspondent aux plus grandes villes sont en rouge, elles ont la plus grande diversité fonctionnelle, alors que les petites villes, qu'on ne voit même plus sur la carte tellement elles sont en jaune clair, sont celles qui peuvent être davantage spécialisées dans une seule monoactivité. Bon, il y a quelques exceptions comme Philadelphie sur la côte Est, qui a malgré tout, historiquement, atteint une taille assez considérable. Ces avantages liés à la taille sont formalisés par les théories économiques sous forme de économie d'agglomération pour les entreprises. Les entreprises ont intérêt à se regrouper pour s'échanger des services, pour profiter ensemble des interactions sur un même domaine. Les services urbains, eux, peuvent réaliser des économies d'échelle. C'est d'ailleurs ce qui est tenté lorsque on rassemble dans des communautés d'agglomération des communes qui mettent ensemble toutes sortes de services pour le ramassage des déchets, pour les assainissements des eaux ou pour l'établissement de services de transport. Et puis, tout le monde profite en fait de ce qu'on appelle des économies d'urbanisation qui sont liées au fait que des infrastructures comme des aéroports, mais aussi des grands hôtels, mais aussi des équipements culturels peuvent être utilisés de manière indivise en partageant les charges par un grand nombre de ménages ou d'entreprises. Alors, là où les choses se compliquent et justifient qu'on ait envisagé un temps de se pencher sur la question de la taille optimale des villes, c'est que certains inconvénients augmentent également avec la taille des villes. Tous les coûts de congestion, d'encombrement bien connus, mais aussi l'élévation systématique des coûts du foncier et de l'immobilier avec la taille des villes, ou encore les coûts pour les entreprises, des salaires qu'elles ont à verser ou des loyers qu'elles ont à payer pour s'établir dans une grande ville. En fait, on peut, entre avantages et inconvénients, essayer de balancer et de signaler que les inégalités de taille des villes correspondraient à une espèce d'état d'équilibre en fonction des coûts et des avantages des grandes et des petites villes. Donc, cela signifierait qu'on puisse éventuellement à chaque instant décider d'une taille qui serait optimale à un moment donné pour les villes. En vérité, c'est assez difficile de soutenir cette position parce que le processus dynamique de complexification des fonctions urbaines, qui est décrit dans une théorie évolutive des villes, plus géographique et pas seulement économique, celui-là implique qu'il n'y ait pas effectivement à chaque instant de taille optimale, mais qu'on soit toujours en fonctionnement dans une hiérarchie de taille de ville avec des fonctions qui circulent entre les villes, les plus innovantes d'abord dans les grandes et puis gagnant ensuite les villes moyennes et les plus petites villes. Donc en fonction de cette explication-là, de l'inégalité de la taille des villes, eh bien, on ne peut pas envisager que même à un moment donné, il y ait quelque chose comme une taille qui soit vraiment optimale. Alors, ce phénomène a été résumé, formalisé sous l'expression de loi d'échelle qu'utilisent aussi les physiciens, les biologistes, et qui formalise le fait que on n'est pas toujours une relation de proportionnalité entre la taille d'un objet, Y, et la dimension d'un de ses attributs, petit x, mais qu'on est une distribution de forme fonction-puissance entre ces deux variables. Et par exemple, en biologie, on a pu observer très souvent que la dépense d'énergie, le métabolisme, était plus important pour les petits organismes que pour les grands. Et donc, on en a conclu que sous la contrainte des lois physiques, eh bien, l'évolution avait en quelque sorte réalisé des économies d'échelle en passant de la dimension des bactéries ou des souris à celle des éléphants. Alors pour les villes, on n'a bien entendu pas le même type de contraintes, ce ne sont plus les contraintes physiques qui sont à l'origine de l'explication. Et on observe que socialement, avec les revendications égalitaires, on a très souvent des exposants de cette relation qui sont égaux à 1, avec des quantités qui sont proportionnelles au nombre des habitants, qu'il s'agisse du nombre des écoles, du nombre commerces de niveau élémentaire. Ça correspond à l'égalisation des conditions de vie. On a quelquefois réalisé des économies d'échelle, comme dans le monde vivant, et c'est le cas en particulier pour un certain nombre de services urbains qui fonctionnent à moindre coût par habitant dans les grandes villes que dans les petites. C'est ce que nous ont montré des chercheurs américains, comme ici Louis Bettencourt, montrant qu'on avait bien une relation avec un exposant bêta plus petit que 1, quand on compare la longueur des routes dans une ville avec leur population sur l'ensemble des villes américaines, on a effectivement des réseaux moins grands à développer pour une grande ville que pour une petite en général. Mais dans le monde urbain, phénomène tout à fait original par rapport à la physique et à la biologie, on a des lois d'échelle avec des exposants plus grands que 1 et qui montrent en fait une tendance à des amplifications croissantes avec la taille des villes. On l'observe pour la production urbaine, pour des catégories de population dites innovantes où les classes créatives, les fameuses classes créatives de Monsieur Florida, sont concentrées davantage dans les grandes villes que dans les petites, et puis les activités les plus innovantes également. C'est ce qui a pu être observé dans 3 situations urbaines aussi différentes que les États-Unis et la France ou l'Afrique du Sud, où les activités de la phase récente de développement, la finance, les assurances, l'immobilier, ont, vous le voyez, des valeurs de bêta bien supérieures à 1 dans tous les cas, pour donc sur ces graphiques qui comparent en abscisse la population des villes et en ordonnée le nombre des emplois dans chacune de ces catégories. En Chine également, nous observons des lois d'échelle avec des coefficients bêta plus grands que 1, mais en Chine, qui est un pays encore en cours de développement, vous voyez que c'est le cas pour l'industrie, alors que dans les pays développés, l'industrie, au contraire, est davantage concentrée maintenant dans des villes plus petites. En Chine, elle est encore en pourcentage plus importante dans les grandes villes, de même que les activités de recherche, alors que les activités d'éducation sont réparties à peu près proportionnellement à la population. Du point de vue de la qualité de la vie, eh bien, on a également certains avantages du côté des grandes villes, comme l'atténuation des extrêmes climatiques, températures ou précipitations, un confort des logements plus grand, des revenus plus élevés, un marché du travail plus diversifié et donc plus facile, qui permet de trouver plus facilement des emplois, un meilleur accès à quantité de services et d'équipements, et même parfois des espérances de vie plus importantes en ville que, à la campagne ou dans les plus petites villes. Évidemment, des inconvénients bien connus, davantage de pollution peut-être, et certainement parfois, des coûts du logement et de la vie plus élevés, des logements plus petits, une intensité d'occupation du sol plus dense, plus forte, des villes plus compactes. On a pu avancer que la criminalité ou la délinquance avait tendance à augmenter avec la taille des villes. C'est pas toujours le cas. Et si vous vous promenez à Tokyo, une ville de 30 millions d'habitants, où vous vous sentez parfaitement en sécurité, vous comprendrez bien pourquoi. D'autres phénomènes varient aussi systématiquement avec la taille des villes. On a davantage d'adultes en âge de travailler, un taux d'activité plus important dans les grandes villes. Les comportements innovants ou marginaux sont plus fréquemment rencontrés également dans les grandes villes que dans les petites. On sait également que grâce à la plus forte densité, on peut installer des transports en commun plus fréquemment dans les grandes villes que dans les petites. Et ces grandes villes ont une croissance certes plus faible que certaines petites villes, mais beaucoup plus régulière, parce qu'elles parviennent plus rapidement à adopter les innovations qui passent et qui ensuite connaissent une diffusion hiérarchique. Sur le plan de la cohésion sociale, on a des contradictions qui sont exprimées, soit sous forme catastrophiste avec cette annonce par Mike Davis d'une planète des bidonvilles, qui serait, d'après la traduction française, le pire des mondes possibles, ou Saskia Sassen, qui indique que c'est dans les grandes villes qu'on trouve à la fois les populations les plus riches et aussi les catégories prolétaires les plus exploitées, les plus pauvres, qui participent du développement de ces villes mondiales. Mais en contrepartie, on a également des observations de démographes qui notent que les conditions sanitaires aujourd'hui sont bien meilleures en ville, dans les grandes villes que dans les petites, et cela même dans les pays pauvres. Par ailleurs, il est possible aussi que, grâce à toutes les facilités qu'on y rencontre, il soit plus facile de créer des conditions d'adaptation au changement climatique dans les grandes villes que dans les petites, où les ressources sont moins diverses et moins abondantes. Terminons sur cette note d'optimisme qui est validée ici par la division Habitat des Nations Unies et qui nous montre que dans tous ces pays rangés par ordre croissant d'indices de développement humain. Donc la courbe en bleu correspond à des États, à des territoires. Et en rouge, nous avons la situation de ce niveau de développement humain dans certaines grandes villes de ces pays. On commence à gauche avec Kinshasa et Mombasa ou Dakar, et on termine à droite même avec Séoul et Toronto. Vous voyez que les situations urbaines sont toujours un petit peu meilleures en termes de développement humain que celles du territoire dans lequel elles sont inscrites. Thank you.